Voilà, nous allons reprendre nos travaux. Simplement, je voudrais vous rappeler que si vous voulez poser des questions pour la table ronde qui permet d'un peu d'anticiper les débats, vous pouvez prendre des feuilles ici et les déposer dans le petit casier rouge qui est juste à côté. Comme ça permettra au père Édouard Herr de bien préparer les questions à tous les intervenants. Ah, merci, mon père. On va s'asseoir. Voilà. Alors après le regard philosophique de ce matin, nous allons rentrer dans un nouveau regard, le regard littéraire, que Claire Dodin va nous présenter. Claire Dodin est donc docteure en lettres, mère de quatre enfants. Elle a fait sa thèse sur Charles Péguy et Georges Bernanos. Elle a écrit un livre, Dieu a-t-il besoin de l'écrivain? Péguy Bernanos Mauriac. Et l'année dernière, vous avez sorti votre premier roman, Le Sourire, voilà, qui a reçu le prix des Journées du Livre Chrétien. Et par ailleurs, vous êtes aussi vice-présidente de l'amitié Charles Péguy. Voilà. Alors, merci beaucoup de venir de Lyon pour nous parler de la paternité chez Péguy. Nous sommes très heureux de vous écouter.
Merci pour ces mots d'accueil et laissez-moi vous dire aussi ma joie d'être parmi vous, d'autant que je suis arrivée à Bruxelles par des voies qui sont vraiment celles de la Providence, hein, puisque Yann a retrouvé ma trace, puisque nous nous sommes connus à la Selle Saint-Cloud où il était en formation dans notre paroisse. Depuis, j'ai quitté la Selle Saint-Cloud, je vis à Lyon, et il m'a retrouvée par cet article. Sur Péguy et la paternité qui est paru dans Communio. Donc, c'était pour moi un grand plaisir de voir que ce que j'avais écrit était lu. C'est toujours, ça paraît toujours un peu mystérieux. Et le travail intellectuel chemine, mais on n'est pas maître du chemin qu'il suit. Et donc, voilà comment je me retrouve devant vous pour vous parler de Péguy et la paternité. Et ça, c'est aussi un grand motif de joie d'avoir à vous parler de Péguy, puisque, comme Yann l'a rappelé, c'est un auteur sur lequel j'ai travaillé maintenant depuis un bon nombre d'années, parce que ma thèse, ça remonte à 1995. Donc ça... Et depuis, je n'ai cessé de travailler sur Péguy, sur Bernanos, sur Mauriac un peu moins, surtout Péguy et Bernanos. J'ai vraiment... Ma vie intellectuelle se nourrit de ces grands auteurs qui ne cessent de m'émerveiller et de me permettre d'approfondir un chemin à la fois spirituel et littéraire. Puisqu'on parlait de regard littéraire, mais quand il s'agit de Péguy, on ne peut pas l'enfermer dans une discipline ou un genre. Péguy, c'est un grand écrivain, c'est un grand penseur, un philosophe, c'est un grand... avec des guillemets théologiens, quelqu'un qui a eu des intuitions qu'il a beaucoup creusées dans le domaine de la foi et qui a un apport considérable dans l'intelligence de la foi. De façon tout à fait extraordinaire, le thème de la paternité recoupe toutes ces dimensions. Donc c'est très intéressant d'avoir à le présenter sous cet aspect-là. Alors je me permettrai, sans être trop longue, de redire quelques généralités sur Charles Péguy. Je pense que l'auditoire que vous constituez est sans doute plus familier de cet auteur que beaucoup d'autres publics. Néanmoins, Péguy est quand même un écrivain qui a beaucoup souffert de la réputation qui lui a été faite, des réputations, peut-on même dire, puisque son œuvre est tellement foisonnante et variée qu'il n'a pas été difficile de piocher dedans étant donné qu'il est mort, comme vous le savez, à 40 ans au début de la guerre de 14, il n'a pas été là pour défendre sa postérité. Le fait est que l'histoire de la réception de Péguy est une histoire complexe et en grande partie malheureuse. Et cet auteur souffre encore aujourd'hui de lecture partielle, partiale de son œuvre qui... Je crois pouvoir le dire, empêche qu'on lui reconnaisse sa véritable place et qu'on reconnaisse la mesure de son apport. Donc quand j'ai l'occasion d'en parler, ça me fait toujours, je considère cela comme une chance, hein, de mieux le faire connaître tel que nous le redécouvrons peut-être après un siècle où, qu'il a plutôt malmené. Donc il faut dire que ça n'est pas évident, pendant des décennies ça n'a pas été évident de lire Peggy avec justesse dans la mesure où son œuvre même n'était pas complètement accessible. Puisque vous le savez sans doute, les écrits de Peggy ont paru de son vivant dans la revue dont il était le gérant, en fait dont il était le fondateur, le rédacteur en chef, il assumait toutes les fonctions, mais lui-même se désignait comme gérant des Cahiers de la Quinzaine. Donc son œuvre a eu un mode de publication tout à fait particulier, par quinzaine, hein, selon le rythme de parution de la revue, et j'allais dire dans un compagnonnage avec d'autres textes, puisque Peggy ne publiait pas que ses propres textes, et dans un dialogue, un échange avec le public, qui est resté limité mais fidèle, de cette revue. Donc c'était déjà une façon de considérer l'œuvre littéraire très particulière, pas du tout... donc Peggy n'a jamais eu affaire de son vivant à des éditeurs autres que lui-même, il sélectionnait... Il a beaucoup laissé de textes de côté, mais il choisissait ce qu'il voulait faire paraître. Et donc dans ce mode très particulier de relation au lecteur, qui permettait des échanges. Beaucoup de ses textes ont des réponses à d'autres textes de collaborateurs, etc. Dans beaucoup de ses textes, il y a des réponses à des réactions de lecture. Bon, c'est une œuvre qui est vraiment en dialogue. Et alors après sa mort, tout ça a complètement changé. Et son œuvre, dont son épouse était la responsable, a été publiée de façon très parcellaire. Et on n'a pas respecté la chronologie, on a fait des choix, on a fait des coupures, on a fait des présentations qui avaient plus à voir avec les présupposés des personnes qui proposaient ces recueils, ces mortaux choisis ou ces éditions, qu'avec la pensée de Peggy, d'où une situation tout à fait paradoxale. Bon, par exemple, si on prend la période de la Deuxième Guerre mondiale, Peggy est à la fois récupéré et annexé par le régime de Vichy, et il est cité dans les tracts de la résistance, et Michelet entre en résistance après avoir placardé des extraits de Peggy dans sa ville de Brive. Donc une postérité très, très diverse, divisée, qui n'a pas rendu facile la lecture de cet auteur. Et finalement, la situation est tout autre aujourd'hui, grâce à l'énorme travail qui a été fait à la fin des années 80, donc c'est tout récent, par Robert Burak, qui est décédé depuis, et qui a édité dans la Pléiade l'ensemble de l'œuvre en prose, en choisissant l'ordre chronologique, et il a fait le choix de l'intégralité, c'est-à-dire qu'il a publié également les textes posthumes. C'est un choix qui pouvait se discuter, mais dans le cas de Peggy, ça a été, je pense, un choix bénéfique, parce que ça a permis de, justement, retrouver l'élan d'une pensée. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Peggy n'est pas l'homme des ruptures. Il n'y a pas d'abord le Peggy socialiste, Dreyfusard, libertaire, puis le Peggy catholique, nationaliste. Non, Peggy, au contraire, est un homme de l'approfondissement, et il l'a écrit en toutes lettres, notamment dans un très beau texte qui s'appelle « Notre jeunesse ». Tout ce qu'il a découvert dans le christianisme était déjà présent dans son socialisme. Et c'était la vertu de charité, il écrit ça dans un très beau passage. De nos jours, on peut saisir cet élan qui court tout au long de son œuvre et de sa pensée, et qui fait qu'on passe du souci de justice à l'exaltation de la charité, du socialisme à la foi chrétienne, du militantisme à l'écriture, mais encore une fois, par un continuum, un approfondissement, et non pas par un rebroussement ou une rupture. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez ces quelques mots un peu généraux de mise en place. Maintenant, j'en viens donc à ce très beau thème de la paternité que vous avez choisi pour votre pour ce colloque et qui, chez Peggy, a atteint une grande profondeur et une grande beauté. Ce motif de la paternité court tout au long de son œuvre, je dirais de 1905 à 1914, c'est-à-dire toute la période où lui-même vit la paternité, puisque Peggy aura 4 enfants, le dernier venant au monde après le décès de Peggy. Donc avec ses 3 aînés, en tout cas, Peggy aura vraiment une expérience vécue de la condition paternelle, et il s'exprime beaucoup sur ce sujet. Chez Peggy, il n'y a pas, de même qu'il n'y a pas de rupture entre les différentes positions, il n'y a pas non plus de rupture entre le privé et le public. L'homme tout entier s'engage dans son œuvre, s'expose, et la condition paternelle est maintes fois apparaît maintes fois dans son œuvre. Mais avec la paternité, on touche vraiment à l'intime, à la profondeur de l'être humain. Et Peggy a bien conscience que ça n'est pas un sujet qu'on peut aborder comme un autre, qu'il y a là une sorte de secret, de mystère. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que la plupart des textes en prose où la paternité apparaît sont des textes que Peggy n'a pas publiés. C'est la plupart des extraits que je vous lirai, enfin je le préciserai, sont tirés d'œuvres posthumes. Donc il y a quand même l'idée qu'il en parle, mais qu'il n'est pas sûr que ça puisse être compris, que ça puisse être reçu. Il met beaucoup de côté. Jusqu'au mystère, quand il écrit dans un tout autre registre, qui n'est plus le registre de sa prose engagée, mais qui est celui de sa poésie dramatique, Porche du mystère de la deuxième vertu, le mystère des saints innocents, là, il a trouvé la langue adéquate pour parler de la paternité, tout son sou, et en dire tout ce qu'il a à en dire. Voilà, alors, je vais donc me livrer à un survol, hein, on va dire, parce qu'on ne peut pas rentrer complètement trop dans le détail, de ce thème chez Peggy, selon la chronologie de sa vie et de ses œuvres. Et les points que je mettrai en valeur sont les suivants. Tout d'abord, la notion de fécondité. Ensuite, celle de responsabilité. Puis, le désespoir. Parce que chez Peggy, la condition paternelle est une condition tragique et qu'il y a un moment de sa vie où il l'éprouve vraiment comme un déchirement et presque une impasse. Et enfin, la dernière facette, c'est ce que j'appelle « Tendresse de Peggy ». C'était le titre que j'avais donné à mon article de Communio. Et on verra ce que recouvre cette tendresse. Donc, étant donné que c'est un terme péguiste, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je l'ai trouvé. Voilà, alors la fécondité. Tout d'abord, il faut dire que pour Peggy, la paternité est un heureux événement. C'est une expérience de grand bonheur qu'il va vivre. Peggy était orphelin de père. Il n'avait donc pas de modèle. Il n'avait pas de représentation préalable de ce que c'est qu'un père. Et je dirais qu'il n'avait pas de statut à renverser ni de père à tuer. Le père qu'a été Peggy lui-même n'est pas père contre son propre père. Il n'y a rien de cette sorte. Et la relation paternelle chez lui n'est pas conflictuelle. Il n'y a pas de conflit d'autorité, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de rivalité. Point intéressant sur lequel on pourrait discuter, il n'y a pas non plus chez Peggy de clivage entre paternité et maternité. Ça me paraît tout à fait étonnant, exceptionnel. Peggy ne conçoit pas la maternité. Alors, certainement pas contre la maternité, mais même pas de façon nettement séparée. Puisque je parlais d'autorité, pour lui l'autorité, qui est souvent associée à la paternité, ça va être le fait d'être l'auteur et même l'augmentateur, celui qui est à l'origine et qui fait grandir. Mais ça ne sera jamais celui qui commande. Et en revanche, cette exaltation de la tendresse, sur laquelle je m'étendrai plus longuement à la fin, donc qui est faite d'émerveillement et d'angoisse mêlée, de réconfort, c'est des sentiments qu'on en rapproche plus volontiers de la maternité et que Peggy, lui, relie à la fois à son vécu de père et à sa conception de la paternité jusqu'à sa conception de la paternité divine. On le verra. Et quant à ce passage fameux sur lequel je reviendrai, où il présente le père de famille comme l'aventurier du monde moderne, eh bien, je dois dire que toute mère de famille d'aujourd'hui s'y retrouve complètement. Bon, mais ça s'éclairera après. Donc, cette paternité que Peggy va vivre, c'est une expérience première et une expérience heureuse. Peggy sera très heureux comme père, plus heureux comme père que comme mari, et il a laissé donc quelques passages tout à fait attendrissants, pour le coup, de ce qu'a pu être, ce qu'ont pu être ses joies familiales. Alors, par exemple, dans un texte intitulé « Heureux les systématiques », qui date de 1905, et qui était donc un texte écarté de la publication, un texte posthume, Peggy se livre à une satire des hommes de système, parmi eux des Kantiens. Donc il s'en prend aux Kantiens célibataires comme leur maître, dit-il, qui ne se permettent que quelques rares neveux, et en vis-à-vis de ces pauvres malheureux, il dresse un tableau de la joie familiale, en quelques lignes que je vous lis. Ces malheureux ignoraient le contentement, le simple contentement du cœur et des bras. Le contentement est la réjouissance des mains. Tout le bonheur, tout ce qui fait le bonheur et la joie du bon ouvrier, des simples ouvriers. Manger une bonne soupe fumante sous les chevaux des clartés de la lampe familiale. Assis à la table commune, ronde, légèrement ovale. En face de sa simple femme humaine, entre les poussées des enfants magnifiques. Voilà, autre passage. Ils n'ont jamais su, donc ces pauvres messieurs, que cette joie laborieuse et familiale était une des plus profondes et des plus solides joies humaines, une des plus authentiques et des plus inusables et des plus inévitables et des plus indéracinables. Donc une exaltation toute simple, de ce bonheur simple de la paternité. Et cette célébration de la fécondité humaine s'assortit d'une critique, d'une forme de stérilité intellectuelle, qui est donc à proprement parler cet esprit de système contre lequel il s'élève, qui va donner lieu notamment à, bon, il y a la satire des Kantiens, il y a aussi la satire de Durkheim, fondateur de la sociologie, que Peggy nous présente à travers un portrait assez désopilant, en père, justement, père de la sociologie, sa pauvre fille disgraciée, et finalement, Durkheim ne retrouve quelque humanité à ses yeux que dans cette situation de père d'une fille qui ne tourne pas bien et qu'il aime malgré tout. Donc ça, c'est un passage satirique, mais je vous épargne sa lecture. Mais, de fait, la fécondité charnelle va de pair avec Peggy, c'est le cas de le dire, enfin, avec une fécondité intellectuelle qu'il conçoit comme la célébration, la mise en valeur des humanités contre les sciences humaines. C'est une période où Peggy prend pour cible les sciences humaines en train de se former, auxquelles il reproche de tout miser sur les méthodes au détriment du sens, alors que pour lui, les humanités, c'est la culture qui accorde le primat au sens, à l'expérience qui nous vient des anciens et qui se transmet par les œuvres d'art. Voilà, donc voilà pour le premier point qu'on peut aborder. Le second est tout à fait capital, c'est celui de la responsabilité. Puisqu'au-delà de ce bonheur de la paternité, il y a chez Peggy l'idée que le père, c'est le maître. Le père met au monde des enfants par la chair, mais sa mission, c'est de former des êtres humains. C'est pas du tout uniquement d'être le géniteur, c'est vraiment d'être également l'éducateur. Et ces deux fonctions, paternelles et pédagogiques, sont extrêmement liées chez lui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas connu son père, mais il a vénéré et aimé plusieurs de ses professeurs et en qui il a vu des pères. Donc, je pense notamment à un très beau passage de L'Argent, qui est un texte à forte teneur autobiographique qui est paru en 1913 et dans lequel Peggy revient sur son entrée en sixième. Donc, étant de milieu social très modeste, il avait été orienté vers l'école primaire supérieure, donc vers un enseignement plutôt professionnel. Et le directeur de son école l'a pris par la peau du cou et a dit non, vous irez au lycée. Et il relate cette entrée en sixième comme une seconde naissance parce que, à 40 ans, il est capable de discerner que ça a été le moment crucial, le point de croisement de sa destinée et que s'il n'avait pas eu cet accès à la culture classique, eh bien, son œuvre ne serait pas advenue et sa vie aurait été tout autre. Et donc, ce monsieur Naudy, qui était le directeur de son école, eh bien, il le désigne comme son maître et son père, mon maître et mon père. Et il y aura d'autres, comme ça, d'autres figures de professeurs qui seront célébrées dans son œuvre et honorées comme des véritables pères. Alors pour sa part, Peggy prend très à cœur cette mission-là. D'ailleurs, il n'a pas mis ses enfants à l'école, il leur faisait la classe, enfin jusqu'au lycée, après quand même, ils allaient au lycée. Mais c'est quelque chose qu'il, c'est un choix qu'il fait pour lui-même d'instruire ses fils, notamment. Et il s'exprime sur cette mission, cette responsabilité du père qui doit faire advenir un nouvel être humain en son enfant. Et il perçoit bien les dérives possibles. Ainsi, dans un texte qui s'appelle « Il ne faut pas dire », qui est de 1906 et qui est également un texte posthume, en deux pages bien circonscrites, il réaffirme, c'est plus qu'un parallèle, cette liaison étroite entre père et maître, et il distingue entre les mauvais, père et maître, qui vont voir en leurs élèves et fils des rivaux, et les bons, ceux qui vont les aider à grandir pour eux-mêmes. Et ça va être l'axe pédagogique principal et la grande définition de la paternité par Peggy, qu'on retrouvera à un autre extrême de son œuvre, c'est que le père doit faire advenir un être libre. C'est plus facile à dire qu'à faire, et il verra lui-même les obstacles dans cette voie. Donc déjà dans un premier temps, il réalise, lui qui a célébré la joie familiale, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, qu'il faut renoncer à jouir de ses enfants. Jouir de ses enfants, c'est la tentation, mais il faut... c'est un travers dans lequel on doit éviter de tomber. Alors, il y a deux sortes de pères. On peut former des élèves, nourrir des enfants pour eux-mêmes et pour l'humanité. Ou au contraire, on peut les élever pour soi, comme on dit. Jouir de ses enfants, expression la plus inattendue mais la plus répandue dans le monde des parents, qui serait la plus belle en un certain sens, mais qui, en un certain autre sens, peut devenir la plus odieuse, la plus abusive, la plus techniquement monstrueuse. Donc là, il a bien mis le doigt sur une difficulté de la paternité, c'est que les enfants ne sont pas pour leurs parents. Alors, cette relation étroite entre le père et le maître, qui fait pour Peggy donc la responsabilité paternelle, elle est reprise dans un texte qui, cette fois, sera un texte publié, un texte important, une œuvre importante de Peggy, qui s'appelle « Victor-Marie, comte Hugo », qui date de 1910, et ce texte est une réponse, je parlais tout à l'heure des œuvres qui sont des réponses à d'autres œuvres. Là, c'est une réponse à Daniel Alévi, qui était un collaborateur des Cahiers de la Quinzaine, et avec lequel Peggy, à ce moment-là, a une relation compliquée. Ils étaient amis, ils se sont engagés tous les deux dans l'affaire Dreyfus, et puis Alévi a publié un texte sur cette expérience de l'affaire Dreyfus, a publié dans les cahiers de la quinzaine, donc un texte que Peggy a accepté de faire paraître dans sa revue, mais qui ne lui a pas convenu parce qu'il le trouve trop désabusé, trop désenchanté. Et il va répondre à ce texte par Notre Jeunesse, qui est une œuvre capitale de Peggy, dans laquelle justement il revient sur leur engagement dreyfusiste, il revient sur tout son parcours pour le montrer en quoi il est, non seulement il est resté fidèle à tout ça, mais que pour lui, il n'y a pas de raison d'être désabusé, que les valeurs qu'ils ont servies sont toujours brûlantes en lui et que ce combat n'est pas du tout un combat qui a fait long feu. Bon, donc enfin, ça donne un très beau texte, mais ça donne aussi une brouille avec Halévy et... Peggy se sent obligé de revenir à la charge pour reséduire Halévy, et il le fait dans ce texte Victor-Marie Comte Hugo. Donc on est dans une période où Peggy revient beaucoup sur son passé, justifie ses engagements passés, tente d'établir une cohérence entre ses premiers engagements de jeune homme socialiste, des réfusards, et la foi qu'il a déjà proclamée depuis 2 ans à peu près, ce qui est assez mal compris par tous ses lecteurs et ses collaborateurs des cahiers de la quinzaine. Donc il est dans cette démarche qui est, pour nous, ses lecteurs aujourd'hui, est très capitale, parce que c'est justement là que tout se noue dans son parcours. Mais ça lui pose des problèmes en tant que père, justement, parce que il touche du doigt il existe un risque d'imposer au fils les choix des pères, et qu'à force, enfin, et que cette démarche de justification ou d'auto-justification ou d'auto-élucidation de son propre parcours, il pourrait être tenté de même malgré lui, mais de la faire partager à son fils, et il pressent qu'il ne doit pas faire ça. C'est toujours la même idée, qu'on doit élever les enfants pour eux-mêmes et non pas pour nous, et qu'on ne doit pas... c'est assez radical, parce que dans l'expérience de la parentalité et de la paternité, on est constamment confronté à ça, et il met le doigt sur une vraie difficulté, et il s'en exprime mettre de la distance entre ce qui a été nos choix, nos parcours et la formation que l'on donne aux enfants. Donc je vais vous lire ce passage qui est très, très beau, où le lien entre paternité charnelle et spirituelle est bien affirmé, mais où la difficulté de la tâche, la difficulté existentielle liée à l'amour même, l'amour paternel, qui a tendance à orienter l'enfant, est bien soulignée. Et on voit à travers des textes comme ça que la pensée de Peggy est constamment nourrie de son expérience, de sa vie. C'est une des plus grosses difficultés, disons le mot, c'est une des plus grosses, des plus graves contrariétés intérieures, sinon la plus grave. Aussi, je ne suis pas surpris que l'on ne nous en parle nulle part. Donc ça, c'est bien l'idée de secret, c'est des découvertes qu'on fait en les vivant. Il n'y a pas d'enseignement de la paternité. De la pédagogie, je veux dire naturellement de la paternité spirituelle et de la paternité charnelle, que cette tendance invincible que nous avons, que cette tentation de faire servir, de faire compter notre compte aussi pour nos enfants, pour les générations suivantes. Un compte qui ne devrait même pas nous servir à nous-mêmes, qui ne devrait même pas compter pour nous-mêmes si nous savions vieillir, si nous consentions à vieillir. On ne s'installe qu'une fois dans la vie, on a eu déjà tant de mal à s'installer. D'abord, alors, on veut que cette installation compte pour toute la vie, serve pour toute la vie, et on y réussit tant bien que mal. On ne veut pas recommencer sa vie. Puis, on aime les enfants. On les aime mal, donc on les aime mal. C'est inhérent à l'amour paternel, cette faiblesse. On croit que c'est de l'amour et de la paternité. On croit que c'est de l'amour paternel que de vouloir, que de leur faire que leur vie soit la prolongation de la nôtre, que notre installation compte pour eux, serve pour eux, que notre compte compte pour eux. Laissons nos enfants s'installer pour eux, compter pour eux, commencer pour eux. Ils ont 7 ans, ils ont 12 ans, l'âge de ses fils. Laissons-les faire leur compte qui nous chasse. Donc déjà dans ce texte affleure cette difficulté qui va devenir une souffrance pour Peggy, à savoir que l'amour paternel, chanté de façon si heureuse dans les premiers textes, a sa propre faille, parce qu'il a cette tendance qui lui est inhérente à garder les enfants pour soi, à les vouloir comme nous, alors que ce qu'on doit faire, c'est en faire des êtres libres pour eux-mêmes. Et cette tendance va confiner à un désespoir très profond, qui s'explique aussi parce que Peggy, dans sa vie à la fois personnelle et publique, connaît des difficultés. La paternité en lui, c'est le point sensible où ces difficultés vont s'exacerber et se faire déchirement. Donc j'en viens à ce fameux désespoir qui va s'exprimer dans des textes en prose de la période 1911-1913, qui est une période très, très riche dans la vie et l'œuvre de Peggy. C'est une période d'une fécondité intellectuelle extraordinaire. Peggy a dépassé la phase du bilan dont je vous parlais avec notre jeunesse 1910. Il a dépassé l'espèce de découragement qui a succédé à ce bilan dans des textes au titre évocateur, « Nous sommes des vaincus », « À nos amis, à nos abonnés », où il est tenté de jeter l'éponge, d'arrêter de s'occuper de sa revue, de tout quitter. En fait, il va dépasser ce stade en produisant ses plus grandes œuvres, ses plus grandes, ses plus épaisses, et puis ses plus riches aussi bien en prose qu'en poésie, dans ces années-là, qui seront donc les dernières de sa vie. Mais ce sont des œuvres produites dans le combat, dans la douleur. C'est vraiment cet enfantement se fait dans la douleur. Peggy est accablé par le mal qui se profile autour de lui, l'injustice, la menace de guerre. Il est en proie à un très violent amour pour une jeune femme, amour qu'il va combattre, mais qui néanmoins ne laissera pas de le faire souffrir. C'est donc un homme déchiré qui nous donne des textes souvent très pathétiques et où effectivement le thème de la paternité reflète tout ça, parce que c'est l'homme intime qui s'exprime. Alors c'est dans cette période que Peggy va écrire ces fameuses pages dont vous avez peut-être entendu parler sur le père de famille aventurier du monde moderne, parce que c'est une formule qu'on a beaucoup citée. Elle est tirée d'un texte posthume, donc de 1912, qui n'a pas publié, et auquel on a donné le titre de « Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle ». Et c'est un texte assez long, mais il faut bien le relire, parce que avec cette expression « aventurier du monde moderne », on pourrait penser que Peggy fait du père une sorte de héros, de surhomme qui relève tous les défis, franchit tous les obstacles. Or, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est le mésaventurier, c'est l'aventurier qui est en butte justement à tous ces obstacles et qui vit sa situation comme une mise en échec perpétuelle. Donc la tonalité, en fait, est très sombre. Donc, dans ce dialogue de l'histoire de l'âme charnelle, il y a un grand développement sur l'incarnation. Et c'est dans le cadre de ce développement sur l'incarnation que Peggy en vient à parler de la vie de famille. Et parlant de la vie de famille, il revient sur la figure du père de famille. Donc, il le présente bel et bien comme un aventurier. Donc, je vais vous lire ces quelques lignes, puisque quand même, elles sont fameuses. On croit généralement que c'est le célibataire, l'homme sans famille, qui est un homme de fortune, un aventurier qui court des aventures. C'est le père de famille, au contraire. C'est l'homme de famille qui est un aventurier, qui court non pas seulement des aventures, mais une seule, mais une grande, mais une immense, mais une totale aventure. L'aventure la plus terrible, la plus constamment tragique, dont la vie même est une aventure, le tissu même de la vie, la toile bise, le pain quotidien. Voilà l'aventurier, le véritable, le réel aventurier. Bon, alors, qu'est-ce que Peggy veut dire par là ? Bon, déjà, ce texte, comme je le disais, c'est une parenthèse. Enfin, il ouvre une parenthèse sur le père de famille et puis il oublie de la fermer. Donc, ça fait un très long passage qui fait plusieurs pages, au ton très véhément, à la fois offensif et défensif. Il est touché au vif et il répond. Il répond à des adversaires, notamment il répond à Léon Blum, qui avait écrit à ce moment-là un livre sur le mariage, dans lequel il présentait le mariage et la vie de famille comme le havre après la tempête. Après la jeunesse ardente et ses combats, eh bien, Léon Blum trouvait que c'était très bien de se marier et de se ranger. Voilà. C'était le mariage comme refuge après les aventures, justement. Peggy lui répond. Il le répond également à Gide, avec une allusion à La Porte étroite, et même à Chauderlot de Laclos, puisqu'il écrit à propos du père de famille. C'est lui qui les a, les liaisons dangereuses. Donc c'est un texte vraiment véhément où Peggy part à l'attaque. Et alors, quelle est la position qu'il soutient ? Eh bien, sa position, c'est que, contrairement à ce qu'écrit Léon Blum, la vie de famille est la vie la plus exposée et la plus engagée qui soit. Et que, parce que l'homme qui a des enfants donne prise à tous les événements, à tous les accidents de l'histoire. Et que l'homme qui est chargé de famille souffre non seulement en sa personne, mais en celle de ses enfants, de tout ce que le temporel apporte, le bon et le mauvais. Et de plus, s'il y a un homme qui a un intérêt vital à changer le monde, à le rendre habitable, c'est bien le père de famille, parce que le père de famille s'engage pour sa descendance. Et il ne fait pas que s'engager de la tête, comme écrit Peggy, comme le font les politiciens, qui ne sont pas pères de famille, d'après lui, mais voilà. Donc, il exauce cette figure du père de famille en plein dans les combats de la cité, parce que ce qu'il a de plus cher, la chair de sa chair, est en jeu, à la fois dans l'événementiel, les risques que font courir les guerres, etc., et dans les améliorations de la cité aussi, puisque la motivation la plus forte sera celle donc de rendre le monde habitable pour ses propres enfants. Voilà, donc c'est en ce sens qu'il est un aventurier et certainement pas un homme rangé, un homme retiré. Mais Peggy dénonce aussi avec beaucoup de véhémence et de violence l'hostilité du monde moderne, ce qu'il appelle le monde moderne, au père de famille. Et par là, il désigne ce que nous, on pourrait appeler l'individualisme de la société moderne, qui favorise ceux qui n'ont pas d'attache au détriment de ceux qui sont, dont les enfants sont les otages. Il dit que les enfants du père de famille sont ses otages. Donc cet aventurier est aussi une victime. Et ça, il insiste beaucoup sur cette dimension-là. Et cet aventurier, loin d'être une figure héroïque, il devient sous sa plume un pauvre être. Et il y a toute une série comme ça de qualificatifs qui ne sont pas dépréciatifs, évidemment, au sens où Peggy condamnerait le pauvre père de famille, mais qui le sont au sens où, dans le monde moderne, le père de famille, comme il l'écrit, lui seul est condamné à ne réussir point. Tous les autres ont les moyens de se faufiler. Alors, il emploie cette métaphore de nautique de la le père est encombré de ses enfants comme une il est comme une large barque qui donne prise à tous les coups de vent, à toutes les tempêtes, tandis que le célibataire sur son frêle esquif va toujours se faufiler et avoir les places et avoir la réussite qu'il recherche. Donc les autres se faufilent, ce sont des corsaires. Et alors parmi tout ce qui se ligue dans le monde moderne pour faire du père de famille ce pauvre être empêtré de ses enfants, il y a les curés, je dois bien le dire parce que c'est répété deux fois dans ces pages. Peggy est anticléricale, on peut le dire, tout en étant un chrétien profond. Et alors dans ces pages, il y a, alors je ne sais pas quel est l'épisode biographique, qui est la source de sa colère, mais il y a des lignes assez féroces contre les curés qui s'allient aux autres célibataires pour taper sur le pauvre père de famille. Donc le curé tape tant qu'il peut sur le père de famille, donc c'est une conduite à ne pas reproduire. Décidément, dans ce passage, Peggy met les prêtres du côté de ceux qui n'ont pas d'attache et qui donc ne comprennent pas, ne peuvent pas savoir ce qu'est sa condition de père. Ça n'est pas tellement explicité, mais c'est là et d'une façon assez violente. Donc ce sentiment d'empêchement, qui est celui du père de famille, qui est entravé dans la société telle qu'elle est du fait qu'il a des enfants, va confiner à un autre sentiment vraiment terrible et destructeur, qui est celui de la culpabilité. C'est-à-dire que Peggy en vient à se sentir coupable d'avoir mis des enfants au monde, dans un monde d'iniquité, un monde dont il voit trop les travers. Et il fait à ce moment-là cette expérience terrible, tragique, du père qui, comme il dit, c'est un des plus beaux cas de culpabilité sans faute. Il sait bien qu'il n'a pas commis de faute, mais il ne peut s'empêcher d'avoir un remords pour le risque pris de lancer ses enfants dans un tel monde. Et alors, ce sentiment de culpabilité va être repris dans un autre texte de la même année, 1913, qui cette fois sera publié. Ce texte s'appelle « L'argent suite ». C'est un essai polémique assez violent, avec beaucoup d'éléments autobiographiques et d'une tonalité assez sombre, dans lequel Peggy exprime un profond sentiment d'échec de toute une génération, pas seulement son échec personnel par absence de reconnaissance, par le sentiment que ses combats n'ont pas donné leurs fruits, mais donc il y a ce sentiment d'échec historique. Et dans ce désastre, puisque c'est un désastre qu'il nous dépeint, surgit le désir de sauver au moins les enfants. Donc ça, c'est l'expression de Peggy, sauver au moins les enfants. C'est-à-dire que, vous voyez, on est passé donc de cette célébration heureuse de la vie familiale à quelque chose qui touche au désespoir, avec un sursaut, mais un sursaut qui n'est plus de l'ordre de la raison ni d'une responsabilité bien pensée, qui est un sursaut viscéral, sauver au moins les enfants. Là, je voudrais vous en lire quelques passages parce que c'est. On voit comment aussi l'écriture de Peggy se transforme et que ce qu'il nous livre là est profondément pathétique, profondément authentique. Ça vient vraiment de son intériorité. Voilà. Et en même temps, ça touche aussi à quelque chose d'universel parce que ce tragique de la condition paternelle. Il existe. Alors. Quand un homme et quand une génération a évidemment manqué sa carrière, il met une âpreté incroyable, et pour tout dire une sorte d'âpreté de femme, ce sont les seuls qui comptent, à sauver au moins ses enfants. À sauver au moins la génération suivante. À empêcher que ses enfants, à empêcher que la génération suivante poursuive le même ratage, le même manquement de carrière, subisse le même abusement, soit victime du même détournement. On veut bien avoir été malheureux soi-même, on ne veut pas que ses enfants soient malheureux. Moi-même, qui me suis constamment si mal défendue, et qui, à vrai dire, ne me suis pour ainsi dire jamais défendue, je mesure très bien jusqu'où nous défendrons nos enfants, et que nous les défendrons jusqu'au bout, et que nous tiendrons le coup, et que nous sommes résolus à emporter le morceau. C'est même singulier comme on peut ne pas être courageux pour soi, et ne pas l'être pour son honneur même, et l'être pour ses enfants. Un remords propre, un honneur singulier, un remords singulier nous pousse alors, inconnu de tout homme qui n'est pas père. Bon, il y aurait d'autres passages. Oui, le dernier. C'est une idée de désespoir, une idée de remords, les seuls indéracinables peut-être de toutes, et les seuls peut-être qui amassent en un point d'irrévocable autant d'éternité dans le temps. Donc on est toujours dans ce désespoir, mais avec une sorte d'énergie du désespoir pour sauver au moins les enfants. Et c'est là que, dans cette période, Peggy accède à ce fameux secret, de la vie, hein, sur lequel qui n'est pas transmis, qu'on ne nous révèle jamais, dont on doit faire l'expérience, et qui est, je crois qu'on vous en a parlé ce matin, que l'on n'est pas heureux, mais que malgré ça, on veut le bonheur de ses enfants. Donc ça, ce secret, il est livré dans un autre texte, toujours de 1913, non publié, le Clio Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, non plus l'âme charnelle, où Peggy reprend des termes tout aussi forts et pathétiques cette déploration de ce qu'a été sa propre vie, qu'il étend à une généralité, hein, on sait qu'on n'est pas heureux, cette énergie vitale qu'il sent en lui en ce qui concerne ses enfants, à savoir ce désir de leur bonheur malgré tout, en dépit de toute raison, puisqu'il sait qu'on n'est pas heureux. Mais dans ce passage, dans ce texte, s'opère un renversement qui va permettre qu'on n'en reste pas, qu'on ne reste pas dans l'impasse. Il faut savoir que dans cette période, Peggy a envisagé le suicide, et le suicide en famille. Il a pensé à ça. Mais voilà, à ce point le plus profond de son angoisse paternelle, il écrit que cette révolte insensée du père désespéré qui veut malgré tout le bonheur de ses enfants, l'histoire, Clio, la prend en bonne part, parce qu'elle décèle dans cette énergie du désespoir, ce courage désespéré, cette pensée de bête, c'est l'expression, une des forces les plus puissantes de l'humanité, ce qui fait que l'humanité continue. Et elle est prise également en bonne part par Dieu, parce que c'est là que s'incarne l'espérance. Quand on sait qu'on n'est pas heureux, mais qu'on veut quand même que ses enfants soient heureux, c'est ça l'espérance. Bon. Ce retournement, hein, qui fait qu'une fois qu'on a vraiment atteint le fond, finalement, la valeur de la paternité, le sens de la paternité se reconnaît là, plus encore que dans la responsabilité éducative, etc., va donner lieu à, dans un type d'écriture bien différent, à cette magnifique célébration de la paternité que l'on trouve dans les mystères, le porche du mystère de la deuxième vertu et le mystère des saints innocents. Donc ça sera mon dernier point, tendresse de Peggy, qui s'exprime notamment dans ces deux œuvres. Alors, il faut quand même qu'en toute honnêteté, je reconnaisse que la chronologie n'est pas entièrement respectée. C'est-à-dire que ça serait magnifique pour mon exposé si l'espérance succédait comme ça au désespoir. En fait, ça se passe en même temps tout ça. Même les mystères sont d'une écriture un peu antérieure à ces textes si désespérés de prose, puisque les mystères, ça va être 1911-1912, et que les textes les plus sombres sont de 1913. Mais peu importe, sur un plan personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, Peggy souffre dans cette période-là, et sa délivrance, il ne la trouvera que dans son départ pour la guerre. Les lettres qu'il a laissées sur les jours qui précèdent son départ pour le front en font foi. Il a vécu ce départ comme une délivrance. Tout le fardeau est tombé de ses épaules. Mais jusque-là, c'est vraiment un homme qui est dans la difficulté. Et du cœur de cette difficulté, il arrive à composer cet hymne à la tendresse, qui est vraiment, c'est Bernanos qui disait que l'espérance est un désespoir surmonté. Bon, Peggy a vraiment expérimenté ça, et toute sa louange à l'espérance, qu'on connaît bien, la petite fille espérance, le porche du mystère de la deuxième vertu, etc., ça n'a rien de mièvre, rassurez-vous, parce que c'est vraiment la traversée du désespoir qui lui permet de faire ses découvertes et de les transcrire dans cette écriture nouvelle chez lui, qui est celle des mystères. Donc, c'est ces longs poèmes dramatiques qui sont d'une seule coulée. Même chacun de ces mystères pourrait n'en faire qu'un seul. Il n'y a pas vraiment de rupture. Notamment, là, je parle principalement donc, du porche du mystère de la deuxième vertu et du mystère des saints innocents, qui reprennent tout à fait les mêmes motifs, qui vraiment sont d'une seule coulée, et où on n'est plus du tout dans la recherche, dans la quête, dans le débat, dans la colère, ni même dans la souffrance. Il a trouvé un style qui est vraiment de l'ordre de la célébration. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par la trajectoire intellectuelle de Peggy, il faut plutôt lire ses œuvres en prose, où là, on a vraiment le cheminement d'une pensée qui se cherche. Les mystères sont beaucoup plus des écrits de, je veux dire, des résultats, des sommes. Enfin, on n'est plus dans la trajectoire, on est vraiment dans le résultat, voilà. Dans l'aboutissement, ça c'est plus joli que résultat. Bon. Alors, il se trouve que ces deux œuvres, ces deux mystères, sont vraiment célèbres la paternité. Le motif de la paternité y est au premier plan, de page en page. Ça n'a peut-être pas été si souvent que ça mis en avant, mais parce qu'on a beaucoup parlé de l'espérance, certes, mais l'espérance, c'est la petite fille espérance, et pour arriver à cette figuration de l'espérance, il fallait passer par la condition de père, qui a des fils et des filles. Et c'est ça qui donne toute sa teneur et même sa signification à cette personnification de l'espérance en enfant. Puisque, comme il l'écrit dans le porche du mystère de la deuxième vertu, tout ce qu'on fait, on le fait pour les enfants. Finalement, quand on a compris, quand on est revenu de ces idéaux, de ces illusions, de combat pour la justice, qui a quand même été le grand axe de la vie de Peggy, eh bien, quand la vie est venue démentir tout ce à quoi on avait vraiment donné son existence, on réalise que si on vit, c'est pour ses enfants. Que c'est là qu'il y a et que c'est ça l'espérance. D'où cette personnification de l'espérance en petite fille qui fait 20 fois le chemin, peu importe où elle va, et l'homme adulte, le père, s'émerveille de cette énergie qui le relance lui, qui devient sa propre dynamique et son unique dynamique. Donc ce qui était de l'ordre du secret, dont on ne parle pas, que Peggy creusait, mais en même temps laissé souvent de côté dans ses textes non publiés, eh bien, se célèbre ouvertement dans les mystères. Et la figure de paternité qui va être au premier plan de ses œuvres, c'est une figure de tendresse. Alors ce mot de tendresse, le nom tendresse, l'adjectif tendre, envahit ces textes, notamment le deuxième, Le Mystère des Saints Innocents, qui est vraiment une œuvre sublime. C'est vraiment un écrit sur la tendresse, ce terme revient sans arrêt. Et Dieu qui s'exprime, qui est le locuteur, Dieu dit que la tendresse qui est au-dessus des vertus mêmes, donc elle est exaucée, donc certes l'espérance, il y a l'espérance, mais la tendresse est encore au-dessus de l'espérance, la foi et de la charité. Alors qu'est-ce que c'est que cette tendresse? Eh bien, c'est une, apparemment, si on lit bien, c'est une capacité à pleurer. Les pères qui sont dans ces mystères, humains, divins, pleurent. Ils pleurent devant leurs enfants. Ce sont des textes pleins de larmes, des larmes d'émerveillement, d'émotion. Alors, c'est le bûcheron dans le porche du mystère de la deuxième vertu, le bûcheron qui présente beaucoup de traits de Peggy lui-même, qui, tout en fendant son bois sous la bise, pense à ses enfants et laisse couler ses larmes. Alors, il a un petit peu honte, il surveille que personne ne le voit, mais il pleure d'émotion en pensant à ses enfants. Et Peggy écrit un très long passage sur ses larmes. Ça sera Dieu devant la croix. Je vous lirai tout à l'heure un passage. Mais c'est aussi le père du fils prodigue. Donc tous ces pères pleurent devant leurs enfants. Alors il y a évidemment une forte dimension personnelle, autobiographique, mais je ne sais pas si le terme convient, enfin intime, dans ces textes. Peggy nomme ses enfants, les enfants du bûcheron ont les prénoms des siens, ont les âges des siens. Donc il y a vraiment une volonté d'inscrire son propre vécu de père dans ses textes. Mais il y a surtout une reconnaissance donc, de la place que tiennent les enfants dans la vie, qui est la place essentielle, la première. On ne travaille que pour les enfants, et c'est là l'espérance même. Quand je disais tout à l'heure que le père, selon Peggy, n'est pas contre la mère, que c'est même un père très maternel, il n'hésite pas donc à se livrer dans ses larmes d'émotion. Il n'hésite pas à se livrer dans d'autres scènes qui sont vraiment d'une beauté. C'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais lu d'autres textes de pères parlant ainsi de leurs enfants sur le baiser du soir, le baiser du père. Donc ça. Je crois que je vais vous le lire. Et pourtant, on est si fiers d'avoir des enfants, mais les hommes ne sont pas jaloux. Et de les voir manger, de les voir grandir, et le soir, de les voir dormir comme des anges, et de les embrasser le matin et le soir et à midi, juste au milieu des cheveux, quand il baisse innocemment la tête comme un poulain qui baisse la tête. Aussi souple comme un poulain, se jouant comme un poulain, aussi souple du cou et de la nuque, et de tout le corps et du dos, comme une tige bien souple et bien montante d'une plante vigoureuse, d'une jeune plante, comme la tige même de la montante espérance. Il courbe le dos en riant, comme un jeune, comme un beau poulain, et le cou et la nuque et toute la tête, pour présenter au père, au baiser du père, juste le milieu de la tête. Le milieu des cheveux, la naissance, l'origine, le point d'origine des cheveux. Ce point juste au milieu de la tête, ce centre d'où tous les cheveux partent en tournant en rond, en spirale, ça les amuse ainsi. Ils s'amusent tout le temps. Ils s'en font un jeu. Ils se font un jeu de tout. Ils chantonnent, ils chantent des chansons dont on n'a seulement pas idée et qu'ils inventent à mesure. Ils chantent tout le temps. Et du même mouvement, ils reviennent en arrière sans s'être presque arrêtés. Comme une jeune tige qui se balance au vent et qui revient de son mouvement naturel. Pour eux, le baiser du père, c'est un jeu, un amusement, une cérémonie, un accueil, une chose qui va de soi, très bonne, sans importance, une naïveté, à laquelle ils ne font seulement pas attention, autant dire. C'est tellement l'habitude, ça leur est tellement dû. Ils ont le cœur pur. Ils reçoivent ça comme un morceau de pain. Ils jouent, ils s'amusent de ça comme d'un morceau de pain. Le baiser du père, c'est le pain de chaque jour. S'ils soupçonnaient ce que c'est pour le père, les malheureux, mais ça ne les regarde pas. Ils ont bien le temps de le savoir plus tard. Ils trouvent seulement, quand leurs yeux rencontrent le regard du père, qu'il n'a pas l'air de s'amuser assez dans la vie. Bon, moi, je trouve que des passages comme ça, enfin, c'est... Ça touche vraiment à l'intime de la condition paternelle. Il faut aussi ne pas avoir trop de pudeur pour écrire ça. Il faut ne pas... Oui, c'est très rare qu'un homme se livre ainsi dans une attitude de tendresse et d'amour. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour Peggy, notamment pour ça. Alors, ce qui est également très beau, et j'en terminerai par là, c'est que c'est à partir de cette expérience d'amour qui se vit dans les émotions les plus charnelles que Peggy passe du père avec un petit p au père avec un p majuscule. Et c'est vraiment par cette expérience des larmes que Peggy, du plan humain, va jusqu'au plan divin et de l'amour paternel tel qu'il le vit à l'amour du Dieu-Père tel qu'il le comprend. Donc, comme je le disais, son Dieu est un Dieu qui pleure devant le Christ en croix. C'est déjà à la fin du porche du mystère de la deuxième vertu, quand Dieu dit « Moi seul parmi tous les pères, je ne pouvais ensevelir mon fils. » Et c'est repris au début du mystère des saints innocents, donc ça fait vraiment la liaison entre les deux textes, où on a un passage vraiment, là encore, tout à fait extraordinaire, de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pater dolorosus, puisque là, ça n'est pas Marie au pied de la croix, c'est Dieu Père se lamentant devant le Christ en croix. Donc ça, je vais vous le lire. Hélas, mon fils, hélas, mon fils. Mon fils qui, sur la croix, avait une peau sèche comme une sèche écorce, une peau flétrie, une peau ridée, une peau tannée, une peau qui se fendait sous les clous. Mon fils avait été un tendre enfant laiteux, une enfance, un bourgeonnement, une promesse, un engagement, un essai, une origine, un commencement de rédemption, une espérance de salut, une espérance de rédemption. Ô jour, ô soir, ô nuit de l'ensevelissement, tombé de cette nuit que je ne reverrai plus, etc. Et donc une très longue déploration, ça continue, sur le cadavre du Christ. Bon, et il y a aussi dans dans ce mystère des saints innocents, un Dieu qui apprend la paternité par son Fils. C'est-à-dire que c'est la relation du Dieu Père à son Fils Jésus qui lui permet de passer d'une figure du Dieu de justice au Dieu de miséricorde. Et Peggy l'écrit de telle sorte que vraiment, c'est toujours Dieu qui s'exprime, Dieu reconnaît que c'est le Christ qui lui a enseigné cela. Hein, donc, comme un retournement, ce sont les fils qui enseignent les pères. Et donc ce Dieu de miséricorde, désormais, devra juger comme un père, et on sait comment les pères jugent. Donc ça, c'est 695. Je suis leur père, dit Dieu, notre père qui êtes aux cieux. Mon fils le leur a assez dit que je suis leur père. Je suis leur juge, mon fils le leur a dit, je suis aussi leur père. Je suis surtout leur père. Enfin, je suis leur père. Celui qui est père est surtout père. Notre père qui êtes aux cieux, celui qui a été une fois père ne peut plus être que père. Ils sont les frères de mon fils, ils sont mes enfants, je suis leur père. Bon, ça continue comme ça. Notre père qui êtes aux cieux, mon fils a très bien su s'y prendre pour lier les bras de ma justice et pour délier les bras de ma miséricorde. Et donc on voit qu'en fait c'était c'est toute une conception de la divinité qui se transforme, hein, et que par le biais de cette relation filiale et paternelle, eh bien Peggy nous expose sa compréhension du Dieu chrétien, à savoir non pas un Dieu d'autorité, de commandement, un tyran, mais un Dieu Père de miséricorde. Et alors ça se poursuit, il faudrait faire une étude beaucoup plus poussée que ce que j'ai fait, mais sur une relecture de toutes les écritures à travers cette relation père-fils, puisque, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, il sera question de la parabole du fils prodigue, hein, donc il y a encore une histoire de père et de fils, et c'est encore le père qui pleurait le plus quand le fils prodigue revient. Et puis, dans le mystère des saints innocents, Jeanne et Madame Gervaise, qui sont les deux protagonistes, rediront à deux voix l'histoire de Joseph et ses frères, et Peggy la présentera comme une préfiguration la parabole de l'enfant prodigue. Et ça donnera lieu à des développements sur donc l'Ancien Testament qui précède. Le prophète parle d'abord, mon fils parle pendant, les saints parlent après, et moi je parle toujours, dit Dieu. C'est un thème qui continue à courir. Je ne vais pas employer de mots savants qui me dépassent, mais c'est une sorte d'herméneutique. Peggy va lire les Écritures à travers cette relation de filiation. Mais, et je terminerai sur ce point-là, il y a certes cette relation père-fils est magnifique et pleine de sens, il n'en demeure pas moins que l'enfance doit cesser, que c'est un état transitoire et que cette relation d'amour en plénitude qu'on peut avoir pour son enfant quand il est enfant, ce dynamisme qu'il nous donne, ça n'est pas le but, ça ne peut pas être la fin de la paternité. Parce que, encore une fois, ce dont il est question, c'est de mettre au monde des êtres libres et adultes. Et dans cette aventure-là, l'enfance n'est qu'une étape. Donc il y a une tentation, mais qui serait une dérive, à fixer l'enfance. Et la célébrer ne doit pas revenir à la fixer. Et c'est ça qui est très troublant, j'allais dire, dans un texte comme le mystère des saints innocents, c'est qu'il y a quand même tout cet épisode du massacre des saints innocents, qui est fait l'objet d'un très long passage, tout à fait terrible. Mais ce qui est plus terrible encore, c'est que il en est donné des justifications. Comment ça a pu être possible? Pourquoi ça a eu lieu? Et alors Dieu dit « parce que tel était mon bon plaisir ». Et que le bon plaisir de Dieu, tel que Peggy l'exprime, c'était de préserver l'innocence de ses enfants, de les fixer pour l'éternité dans cet âge d'avant le vieillissement, d'avant le péché, d'avant la dégradation. Alors évidemment, on sent bien que là, une dérive de la paternité. Alors je ne mets pas du tout Dieu en cause, mais c'est quelque chose que Peggy perçoit. Cette célébration de l'enfance ne peut pas, elle devient mortifère si elle fixe. Donc il faut retrouver la dynamique qui est que le père a pour mission d'amener ses fils et ses filles à la liberté. Et alors il le fait, et Dieu le fait, à travers un passage tout à fait étonnant et dans la manière de Peggy, qui est cette fameuse leçon de natation, où, là encore, on voit comment l'expérience humaine et la compréhension du divin sont très étroitement liées, puisque Peggy se sert de cette situation d'un père en train d'apprendre à nager à son fils, pour expliquer, pour présenter comment Dieu en agit avec l'homme. Et donc c'est toujours Dieu qui s'exprime. Et tout le problème est que quand on soutient trop eh bien, l'enfant n'apprendra jamais, mais que si on le lâche au mauvais moment, il boira la tasse et il ne sera pas, il sera perdu ou il aura fait une mauvaise expérience. Et je vais lire ce passage, j'en terminerai là parce que j'ai été quand même déjà très longue, mais il est vraiment à connaître parce que dans un style parfaitement familier, je crois qu'il exprime, il a une teneur d'intelligence de la foi qui est complètement extraordinaire et que si on l'étudiait plus et que si on le faisait plus étudier au catéchisme, je crois qu'on ferait comprendre des choses essentielles sur ce qu'est la foi, sur ce qu'est la relation à Dieu, notre relation à Dieu qui nous veut libres. Hein, et comme il est écrit là, aime-t-on à être aimé par des esclaves? C'est quand même une question qu'on doit poser aujourd'hui à tout jeune conforme à la foi, lui expliquer qu'il ne s'agit pas de faire de lui un esclave. Alors, ça se trouve... J'ai envie, je suis tentée de leur mettre la main sous le ventre, pour les soutenir dans ma large main, comme un père qui apprend à nager à son fils dans le courant de la rivière, et qui est partagé entre deux sentiments. Car d'une part, s'il le soutient toujours et s'il le soutient trop, l'enfant s'y fiera et il n'apprendra jamais à nager. Mais aussi, s'il ne le soutient pas juste au bon moment, cet enfant boira un mauvais coup. Ainsi, moi, quand je leur apprends à nager dans leurs épreuves, moi aussi je suis partagée entre ces deux sentiments. Car si je les soutiens toujours et je les soutiens trop, ils ne sauront jamais nager eux-mêmes. Mais si je ne les soutiens pas juste au bon moment, ces pauvres enfants boiraient peut-être un mauvais coup. Telle est la difficulté, elle est grande, et telle la duplicité même, la double face du problème. D'une part, il faut qu'ils fassent leur salut eux-mêmes, c'est la règle, et elle est formelle. Autrement, ce ne serait pas intéressant, ils ne seraient pas des hommes. Or, je veux qu'ils soient virils, qu'ils soient des hommes et qu'ils gagnent eux-mêmes leurs éperons de chevalier. D'autre part, il ne faut pas qu'ils boivent un mauvais coup, ayant fait un plongeant dans l'ingratitude du péché. Tel est le mystère de la liberté de l'homme, dit Dieu, et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté. Si je le soutiens trop, il n'est plus libre. Et si je ne le soutiens pas assez, il tombe. Si je le soutiens trop, j'expose sa liberté. Si je ne le soutiens pas assez, j'expose son salut. Deux biens en un sens presque également précieux. Car ce salut a un prix infini. Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre? Comment serait-il qualifié? Nous voulons que ce salut soit acquis par lui-même l'homme, soit procuré par lui-même, vienne en un sens de lui-même. Tel est le secret, tel est le mystère de la liberté de l'homme. Tel est le prix que nous mettons à la liberté de l'homme. Parce que moi-même je suis libre, dit Dieu, et que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tel est le mystère, tel est le secret, tel est le prix de toute liberté. Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde, de la liberté du Créateur. C'est pour cela que nous y attachons, que nous y mettons un prix propre, etc. Bon, je crois que je vais arrêter là en vous remerciant de votre attention et j'espère donc vous avoir convaincu de relire Peggy.